Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence.
Radio & Co.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Christian au micro, accompagné par Jennings. Bonjour Jennings.
Salut Christian, salut tout le monde.
Je vais te laisser présenter notre invité et nos collègues.
Oui, alors on va déjà commencer par les intervieweurs avec à ta gauche, donc il y a Zora. Bonjour Zora.
Bonjour.
À ta gauche, donc c'est moi-même Jennings. À ma gauche, il y a donc, voilà, Mondir. À la gauche de Mondir, nous avons Sébastien à la réalisation. Et donc, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir une athlète paralympique qui a joué les Jeux donc, de Paris 2024, puisque nous recevons Coralie Gonzalez. Alors, vous allez vous dire évidemment qui est Coralie Gonzalez. Eh bien, c'est une joueuse d'un sport qui est très peu connue par le public, mais que nous avons eu la chance de connaître pendant les Paralympiques, puisque c'est du goalball. Salut Coralie.
Bonjour à tous et merci pour l'invitation.
Ben merci à toi de venir. Alors déjà, peux-tu te présenter un petit peu pour nos auditeurs?
Ah oui, alors je suis Coralie, j'ai 36 ans, je suis non-voyante depuis 2016 et je suis accompagnée de mon chien guide Juke. Et j'ai un diplôme de masseur kinésithérapeute et en 2020, j'ai cessé mon activité pour me consacrer à la préparation des Jeux de Paris 2024. Donc Paris gagnant, puisque j'ai pu les faire et représenter la France dans une discipline, comme tu l'as dit, peu connue, qu'est le goalball.
Peux-tu nous parler de ton parcours sportif ?
Quand j'étais plus jeune, j'étais malvoyante. Donc j'ai fait du sport avec les valides, j'ai fait de la gym, j'ai fait de la natation, j'ai fait du basket. Et j'ai beaucoup accroché au niveau du basket. À 10 ans, on m'a dit, Coralie, c'est plus possible, tu vois pas assez, tu peux pas faire de compète, donc t'arrêtes. Ok, donc à 10 ans, ça fait une claque. Donc j'ai laissé tomber le sport collectif, je faisais du VTT. Et quand je suis venue sur Toulouse, à Ramonville, dans une école adaptée, on va dire, j'ai connu l'handisport, le torbal, puis le colball. Ça a été une révélation pour moi, ces deux sports. Et en 2010, au fur et à mesure des rencontres par le torbal, j'ai été démarché par les entraîneurs de l'équipe de France de goalball. Donc j'ai roulé ma bosse. Et en 2016, j'étais officiellement dans l'équipe de goalball. Et voilà, et sportif de haut niveau depuis 2018, il me semble.
Coralie, peux-tu nous expliquer ce que c'est le goalball ?
Ah, quelle question, ça c'est... Donc il faut vous représenter déjà un terrain de volley. Le terrain de goalball, c'est les mêmes dimensions d'un terrain de volley. Donc 9 mètres de large sur 18 mètres de long. Derrière ces 9 mètres de large, sur toute la largeur du terrain, il y a une cage qui fait 1 mètre 30 de haut et qui fait 9 mètres de large. Et le but, c'est qu'avec un ballon qui est sonore, bien sûr, parce que les joueurs sont masqués, 3 contre 3, ce ballon, il faut le lancer au sol, le faire rouler par terre, pour passer les trois joueurs qui sont en défense et qui font une barrière au ballon en plongeant. Et il faut marquer derrière ces trois joueurs. Donc pour se repérer, on a le terrain où toutes les ficelles sont en relief. Comme ça, on se repère avec les mains et avec les pieds. Et le ballon, bien sûr, il est un peu lourd. Il fait 1,2 kg. Et c'est un genre de caoutchouc avec des grelots. Comme ça, on peut l'entendre parfaitement dans le match. Et le but, c'est d'arrêter ce ballon avant qu'il franchisse la ligne derrière nous.
Moi, j'ai un peu fait du torbal quand j'étais jeune, parce que c'est un sport qui était très pratiqué dans les institutions pour déficients visuels, un sport que je sais que tu pratiques aussi. Moi, c'était vraiment un loisir, toi, c'est en compétition. Alors, sans rentrer dans les détails pour ne pas perdre nos auditeurs, est-ce qu'il y a de grosses différences entre le torbal européen, donc, et le goalball olympique international, hein?
Alors, il y a deux grosses différences. Au torbal, le ballon, il fait 500 grammes. Au goalball, il fait 1,2 kg. Le terrain de torbal est plus petit que celui de goalball. Le temps est plus court au torbal, c'est 2x5, alors qu'au goalball, c'est 2x12 en temps effectif. Donc un match de torbal, c'est 25 minutes, un match de goalball, ça en fait 50.
C'est plus physique que du coup, quoi.
C'est beaucoup plus physique, tout à fait. Le goalball demande un entraînement physique plus important que le torbal. C'est plus technique aussi. Voilà, c'est vraiment les trois grandes différences qu'on peut noter.
Le torbal n'est pas olympique, je crois, concrètement.
Exactement, le torbal n'est
pas... Très romain au golbol.
Ouais, contrairement au golbol, qui est quand même aux Jeux Olympiques depuis 88. Hein.
Et j'imagine que tu as fait des études également.
Ouais, j'ai fait mon lycée, j'ai eu mon bac à Ramonville, et après je suis partie sur Limoges faire mes études de kiné. J'obtiens mon diplôme en 2012, et après je m'installe en libéral. Parallèlement, je travaille en tant que salarié, en premier dans une maison d'accueil spécialisée à Toulouse, et après dans une maison de retraite, et après j'accesse le salarié pour faire que du libéral.
Comment as-tu fait pour allier les deux?
Ben, pour lier le sport et le travail, en fait, en 2016, quand on me recontacte pour être en équipe de France, ben, les attentes étaient faibles, en fait. On n'avait pas de haut niveau, on n'avait rien à prouver, il n'y avait pas cette notion de compétition et d'aller plus haut. Et après, ça a changé une fois qu'on a été sur liste ministérielle, donc sportif de haut niveau. Là, ça change beaucoup parce qu'on a des attentes. Donc on doit faire des concessions, on doit se préparer. Et donc jusqu'en 2020, ça a été, j'ai pu allier et entraînement et travail. Par contre, en 2020, il y a eu le Covid et ça a été un changement de vie radical pour moi. J'ai dit, là, je ne peux plus faire mon activité de libéral. Donc je vais me lancer que dans la préparation du goalball pour Paris. Et ça a été ticket gagnant parce que les deux parallèles, c'était très compliqué. Je gagnais plus du tout ma vie en faisant kiné. Je travaillais à perte et j'étais plus crevée qu'autre chose, donc la performance était moindre aussi. Donc il a fallu trouver une solution, donc solution radicale, arrêter le travail pour faire du goalball à 100%.
Petit retour en arrière, dans quel club évolues-tu et comment as-tu intégré l'équipe de France?
Mon club de cœur, c'est le CSAVH 31. Au goalball, je suis...
Club toulousain, pour
ouais, le club toulousain, exactement, qui est là depuis... Je suis là-bas depuis 2010, il me semble. Donc, ça fait très longtemps. C'est vraiment mon club de cœur. Je ne changerai pas de club pour l'instant, en tout cas, ça, c'est sûr. Parce qu'avec lui, on a beaucoup... on a eu quelques médailles, on a eu quelques titres magnifiques. Et alors, après, j'ai été intégrée par l'équipe de France en 2010. J'ai été remarquée très vite, mais pour faire un peu du remplacement, pas pour être dans les titulaires. Et puis en 2016, on m'a rappelé pour être titulaire. Et depuis, j'enchaîne les compétitions et les sélections. Et là, je fais partie du trio de tête, hein. Trois de départ, généralement.
Donc, finalement, ça revient... Elle est liée, la question, au final, parce que c'est... Peux-tu nous raconter ton quotidien de sportif de haut niveau?
Alors, la dernière année, ça a été très, très rempli, très chargé. Parce que toutes les 4 à 6 semaines, on partait dans un pays étranger ou on partait en stage sur l'île. Donc cette année, depuis septembre, on est allé en Turquie, on est allé en Finlande, on est allé au Japon, on est allé en Suède. On a fait pas mal de tournois en France. Donc ça a été très chargé puisqu'il y a eu les stages. Donc les semaines, c'était tous les jours, trois fois par semaine, je voyais mon préparateur physique. Deux autres fois par semaine, 2 fois 4 heures, c'était entraînement... avec le club de Toulouse pour faire du goalball. J'avais 1 heure ou 2 le samedi matin avec un entraîneur spécifique de goalball pour travailler la technique. Et après, les 2 jours qui restaient, c'est entraînement physique à la maison. Donc voilà, il y a eu ça qui a pris beaucoup, beaucoup de place. Et après, il a fallu faire rentrer la nutrition, le suivi nutritif par la coach en nutrition. Et après, il y avait le préparateur mental. Avec qui j'ai été suivie tout au long de l'année pour préparer les grosses échéances. Donc c'était bien rempli.
Et au niveau de l'équipe de France, quelles ont été tes émotions quand tu as appris que tu pourrais enfin jouer dans l'élite?
Alors j'étais hyper heureuse quand on apprend. Alors là, on avait, par exemple, pour la dernière sélection, pour les Jeux, on l'a su très tard. Il y a eu le doute jusqu'au mois de juillet à peu près. On ne savait pas qui des 10 allait faire partie des 6 gagnantes.
Ah, il y avait un peu de suspense du coup.
Il y avait un peu de suspense.
C'était stressant là,
oui,
j'imagine.
C'était stressant. Mais bon, dans le fond, on savait à peu près qui allait être sélectionné. Mais quand vous voyez votre nom et que vous dites, là ça y est, c'est gagné, j'ai réussi et je vais faire Paris 2024. Et ça, c'est... Oh, j'ai hurlé, je pense. J'ai hurlé, j'ai secoué mon chien et j'étais trop heureuse, quoi.
Et justement, Djouk, ton chien, tu nous en parlais tout à l'heure, il te suivait partout, entre guillemets, dans toutes les compétitions où tu allais, dans tous les stades, etc.
Alors, ça dépendait des fois. De temps en temps, elle venait en stage parce que c'était un peu la mascotte de l'équipe.
Ouais.
Donc, quand on était à Lille, elle venait, tout le monde aimait bien, il lui donnait des pommes, il la sortait, tout le monde adorait tout ça. Après, quand je partais sur l'étranger, je ne pouvais pas la prendre parce que les normes européennes ou sanitaires d'autres pays ne sont pas les mêmes que nous. Donc, il y aurait souvent des quarantaines, donc ce n'était pas la peine.
D'accord.
Et par contre, à Paris, elle était là, elle était dans les gradins et j'ai pu la voir à la fin de mes matchs, et quand elle m'a vu pour la première fois, ça faisait 10 jours qu'on s'était pas vu, elle m'a fait une fête énorme.
Passons aux jeux. Qu'as-tu pensé de ces jeux à Paris 2024?
C'était vachement, c'était vraiment très très bien. Alors déjà, l'arrivée au village, c'est un peu comme Noël pour les enfants. C'est une découverte grandiose. Avec les bâtiments, les autres équipes, les fameux lits en carton, qui au passage étaient plutôt pas mal finalement. La cafétéria où c'était abondance à fouet, enfin, c'était énorme. Et puis ce que j'ai pensé, c'est que le public déjà, il nous a donné un amour de dingue. Il a été présent, qu'on perde ou que l'on gagne, il était présent derrière nous tout le temps. Il nous aimait pour ça. Et après les bénévoles extra d'une gentillesse immense, une organisation en or. Et puis surtout, ce qui était vachement bien, c'est qu'on a eu de la médiatisation, que ça soit sur les chaînes France 1, France 2, France 3, et sur certaines radios, sur une radio de sport. Il y avait quand même la radio en radio internet qui était que Jeux Paralympiques. Et ça, c'est vraiment bien. On a eu une grosse médiatisation, et ça, c'est vraiment le gros plus de ces Jeux, je pense.
Justement, le fait que ce soit en France, ça a permis qu'il y ait une meilleure médiatisation que ce n'était le cas auparavant.
Oui, déjà, quand c'était à Tokyo, il y avait quand même une belle médiatisation avec les chaînes digitales. Mais là, que ce soit en France, il y en a eu les commentateurs qui étaient là pour. Et bien sûr, on a eu une visibilité puisque c'était à horaire. Nos matchs, ils ont été à horaire grande audience, la sortie du travail des gens. Donc, c'est top.
C'est vrai qu'en tant que spectateur, j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir suivre les Jeux olympiques et paralympiques, tant à la télé qu'à la radio, quoi, là, que c'était comme n'importe quelle épreuve sportive, en fait, on pouvait vous suivre en direct.
Ah oui, c'était énorme, la médiatisation. Je pense qu'on avait le même temps de médiatisation que les valides. Et ça, c'est vraiment une grosse première. Vraiment, c'est génial.
Mais je trouve quand même les journalistes qui commentaient, que ce soit à la radio ou à la télé, ils faisaient le maximum justement pour faire vivre à fond, que ce soit aux téléspectateurs ou aux auditeurs, les jeux olympiques, même s'ils n'y étaient pas.
Oui, exactement. Par exemple, nous, Julien Vasseur, celui qui commentait le goalball, en fait, il nous connaissait. Ça fait un petit moment qu'il gravite autour de l'équipe de France, donc il nous connaissait, il savait nos points faibles, nos points forts, il savait d'où on venait, donc il connaissait déjà son sujet. On n'a pas mis des gens qui ne connaissaient rien à des postes pour commenter, et ça, je trouve que ça fait la différence.
Raconte-nous l'ambiance du village olympique, la ferveur du public. Ben donc, ça revient au même, finalement.
Oui, c'est une grosse... On va commencer par le village. C'était génial parce que tout le monde était à notre petit souhait. On pouvait se consacrer qu'à la compétition. Les bénévoles, ils étaient là pour nous, tout ça. Enfin, comme je disais, c'est un peu Noël quand on est enfant, en fait. Il y avait tout qui était gigantesque. Par exemple, la laverie, vous amenez vos affaires. Même pas le soir, c'était prêt, quoi. Vous récupérez votre filet, le linge était tout propre, tout beau. Et puis la ferveur, on l'a vu déjà dès la cérémonie d'ouverture. Quand on a quitté le village olympique, déjà, on s'est tous mis, tous les Français, ensemble pour faire une grosse photo. Le photographe, il était sur l'immeuble vers le haut, donc il l'avait vu plongeante sur nous, donc c'était assez grandiose. Et après, quand on est parti vers le bus, les bénévoles, ils nous ont fait une haie d'honneur et ils nous ont applaudi. Donc on n'est pas prêt à ça, on ne nous prépare pas, mais ce moment, ça met des papillons un petit peu dans le ventre. Et pareil, quand on est parti à la cérémonie d'ouverture, on avait les CRS, les gendarmes à moto, tout ça, qui étaient sur les côtés des bus et qui faisaient des roues arrière, qui faisaient des accélérations, on leur tapait sur les fenêtres. C'était très, très, très bon enfant. C'était génial. Et puis le public dans les gradins, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour qu'ils nous ont donné. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est magnifique.
Ah, cette question, elle est pour moi. Est-ce qu'on mangeait bien à la cantine olympique?
Vous avez tous entendu parler du fameux muffin au chocolat. Mais il était très, très bon. Donc... Il y a des gourmands, je pense.
C'est ça.
Il y a des gourmandes. J'ai bien compris, il y a des gourmandes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au restaurant olympique, là, il y avait tout. Il y avait le stand France, il y avait le stand Europe, il y avait le stand Halal, il y avait le stand asiatique, il y avait les pizzas, il y avait des bars à salade, des bars à fruits.
Il y avait de quoi quand même.
Oui, il y avait de tout. Et surtout à n'importe quelle heure. C'était ouvert 24 heures sur 24. Donc, une fois la compétition finie, on s'est lâché.
Vous n'aviez pas un régime imposé par vos coachs?
Ah si, pendant la compétition. Et une fois la compétition finie, c'est terminé là, les privations. Donc le premier petit déjeuner, ça a été pour Zora.
C'est ça.
Chocolatine.
C'est ça.
Croissant. Muffin au chocolat. Pâte au gorgonzola.
Ouais, c'est ça.
Et on a terminé par de la pizza quand même.
Ah oui, je pense que je sais pas.
C'était quelque chose de... Dingue. Oui, c'est tout ça. Voilà, et tout ça gratuit.
Donc, en plus, voilà. Ça c'est bien.
Bon, même si tout ce qui est pizza, etc., c'est pas très sportif, ça fait du bien quand même quand on en mange, quoi.
Ouais, surtout quand la compétition elle est finie, la Nutri elle peut plus rien nous dire, quoi.
Donc, oui, voilà, c'est ça.
Par contre, quand on mange avec les coachs, non, là on peut pas. C'était notre part de protéines, notre part de légumes, notre part de féculents, et là c'est pas. Se rigoler moins, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors on va sortir un peu de la gastronomie. Moi, j'avais une question totalement différente. On a présenté le village paralympique comme une vitrine de l'accessibilité. Alors, toi qui l'as vécu de l'intérieur, qu'en as-tu pensé? Est-ce qu'il y a eu des innovations vraiment intéressantes?
Non. Non. Déjà, alors, c'était pas mal pour les... quand même, pour la petite anecdote, on s'est retrouvés un jour avec les deux ascenseurs de l'immeuble en panne, quand même.
Ah.
Quand même.
C'est le comble, ça.
Mais c'est quand même
sympa pour les fauteuils. Les personnes en fauteuil, pardon.
C'est ça, c'est sympa. Imaginez la personne qui a la compète et qui peut pas descendre. Voilà. Donc alors c'est quand même retrouvé peut-être une petite heure ou deux sans ascenseur. Bon, nous on est au 9e étage. On a adoré. Et après, en termes d'accessibilité, oui, tout était pour les fauteuils, c'était vraiment très très bien. Pour les personnes en fauteuil, c'était vraiment très très bien accessible. S'il y avait besoin, il y avait toujours un bénévole qui était par là. Après, pour les déficients visuels, il n'y avait pas de borne sonore, il n'y avait pas de bande tactile, il n'y avait rien.
Pas de balai sonore, pas de...
Non, rien du tout, rien. Il y avait des bénévoles, donc ça, c'était top.
Heureusement.
Oui.
Et sur les compétitions? Est-ce que tu as assisté à des compétitions en tant que spectatrice?
Non, j'ai pas eu le temps.
D'accord.
Non.
Alors, comment expliques-tu les différences entre les nations?
Ah, ça c'est. Alors, je vais parler que du goalball, la discipline que je connais le mieux. Déjà, pour beaucoup de pays, on n'a pas la même notion du handicap. On ne gère pas le handicap de la même manière. Nous, on va avoir une politique d'intégration. On va intégrer la personne en situation de handicap au sein de la société le plus possible, au sein de l'école le plus possible. Mmh. Et donc, ils ont moins accès à des sports que nous, on connaît en tant que handi, quoi. Ils vont faire du basket, ils vont faire du foot, du rugby, mais on ne va jamais leur parler de turbal, on ne va pas leur parler de foot-fauteuil parce qu'on connaît peu, on ne va pas leur parler de rugby-fauteuil parce qu'ils ne connaissent pas, les profs ne sont pas assez, connaissent pas assez ça, tout ça. Par contre, je vais prendre un pays comme la Turquie, qui n'est pas très loin de chez nous quand même. Eux, leur politique, ils ont les personnes en situation de handicap visuel dans des centres. Donc, ils les ont très jeunes au sport dit adapté, quoi. Donc ils ont, par exemple, leur meilleure joueuse, Sevda, la numéro 3, elle a commencé le goalball, elle avait 11 ans. Et nous, on a commencé, j'avais 20 ans. Donc ça fait déjà une grosse, grosse différence. Voilà, il y a beaucoup de pays, c'est comme ça. Et puis nous, on n'est pas professionnels. Léon Marchand, il l'a bien dit, il est parti parce que la politique sportive aux États-Unis, elle est mieux que la politique française. Et on l'a vu, hein, il a fait la différence, hein, ça se voit. Donc on ne met pas les mêmes moyens pour le sport que pour d'autres, pour d'autres choses en France.
Et justement, quels moyens tu penses qu'il faudrait mettre en place en France pour s'inspirer un peu des autres pays?
Je pense qu'on devrait faire que le sport, ça soit le premier vecteur social déjà. Déjà à la maternelle ou dans l'école primaire, qu'il y ait plus de séances de sport, qu'il y ait plus de séances ouvertes entre handi et valide, que les profs soient plus formés. Par exemple, pour proposer, même s'il n'y a pas de personnes en situation de handicap, pour proposer du rugby fauteuil, pour proposer du torball, pour profiter du showdown, profiter du... Il y a plein de petits sports qu'on pourrait adapter et qui ne le sont pas, je trouve. Donc déjà, les prendre plus jeunes et développer ça à l'école.
Pour revenir au goalball, comment se situe la France au niveau international?
Alors, chez les féminines, on était 43e mondial en 2021. Et là, on est 18e mondial. On a bien, bien progressé. Après, on est assez loin du top 10. Parce que les grosses nations qui sont dans le top 10 sont professionnelles ou au moins semi-professionnelles. Mm-hmm. Alors que nous, on n'est que amateurs. Donc, il y a vraiment un gros cap. On l'a vu pendant ces Jeux. Et les garçons, alors, je ne sais pas du tout combien ils sont mondial, mais ils ont fini 7e sur 8 au dernier Jeu paralympique. Là. Donc, c'est une belle progression aussi. Et voilà. Tout le monde a même progressé.
Et au torball,
Il n'y a plus de classement au torball.
Ah d'accord.
Plus de torball.
Les Jeux olympiques et paralympiques ont été une grande réussite pour toi ou quelle D'abord déjà ça. Quel est ton propre ressenti?
Pour moi, ça a été une grande réussite parce que ce qui m'a marqué le plus, c'est le public. C'est le premier match, il y a eu une ola dans le stade, nous on joue devant 100 personnes, grand match.
Ça serait impressionnant ça de se retrouver devant un vrai public.
Il y avait plus de 4000 personnes et ils font la hola, donc tu regardes, t'écoutes la hola qui passe autour de toi, tu dis oh là 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 là, c'est terrible. Puis les gens ils connaissaient pas trop le goalball, donc ils savent pas quand il fallait parler ou quand il fallait applaudir et tout ça. Et moi j'ai pris ça pendant le premier match, j'ai joué avec le public parce que j'ai fait lever le public, j'aurais fait applaudir quand il fallait applaudir.
Ils ont respecté la règle du silence, qui est importante pour
vous. Ils ont très très bien respecté. Et quand je montrais qu'on pouvait applaudir, ils se levaient, ils applaudissaient. Et ça, le public m'a aimé et j'ai aimé ce public. C'est mon meilleur souvenir, c'est ce public. Et puis c'est de retrouver la famille après le deuxième match avec ma famille qui était là. Et on tombe les bras les uns dans les autres parce qu'on se dit c'est une réussite parce qu'ils nous ont poussés là-dessus, ils nous ont soutenus, ils ont été là dans les moments pas faciles. Et là, de concrétiser ça à Paris, c'est énorme.
Moi, je voulais poser une question qu'on a laissé passer, je pense. L'équipe de France, malheureusement, au niveau du goalball, on ne vous a pas trouvé sur le podium. Tu pourras nous préciser votre classement peut-être. Est-ce que ça, vous avez été au résultat que vous attendiez? Est-ce que tu as été déçu? Comment l'as-tu vécu
Je pense qu'on a la place, on n'a pas fait de miracle. Des fois dans le sport, il se passe des choses, il suffit d'un match, un quart, imaginez, on aurait pu tomber sur... On a eu une poule pas relevée, mais le quart était très élevé, la marche était très très grande, et on n'a pas les moyens de rivaliser, donc on finit dernier. Sachant qu'il y a eu une grosse progression, on finit contre la Corée du Sud, on finit à deux partout, et on perd au pénalty la 7e place. Donc bon, c'est un peu frustrant. Mais quand même, je me dis, il y a des jeunes dans cette équipe et j'espère qu'elles vont continuer et qu'elles vont aller encore plus loin.
Il y avait combien d'équipes dans la compétition de goalball féminine?
8.
Ah, d'accord.
8.
Est-ce que quand tu étais enfant, tu t'imaginais un jour sportive de haut niveau?
Oui, j'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé ça. Quand j'ai vu le foot France 98, pour certains, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas connu. Et quand j'ai vu France 98, qu'ils ont été champions du monde, je me suis dit, moi aussi, je veux que les gens ils m'applaudissent. Moi aussi, je veux lever des foules. Je veux faire ça, je veux vibrer. Je veux manger sport, je veux boire sport, je veux faire tout sport. Et j'ai réussi, c'est un rêve, c'est une concrétisation d'un rêve de gosse, ces Jeux.
Quels sont tes projets pour l'avenir?
Los Angeles.
Alors, Los Angeles, c'est bien loin. Je pense que j'y irai pas parce que déjà j'aurai 40 ans, donc je pense que place aux jeunes. Après, est-ce que je vais continuer l'équipe de France? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Pour l'instant, tout est en stand-by parce qu'il y a des élections qui doivent se faire à la Fédé, donc on en saura plus en janvier. Mais en tout cas, moi, je continuerai avec mon club déjà. Donc déjà, je vous envoie une petite balle là. Si vous voulez venir nous voir le 25 et le 26, on joue à Toulouse pour le championnat de France. Donc voilà, déjà, je vais faire le championnat de France. Et après, on verra la suite.
Bah, donne-nous l'adresse.
L'adresse, le week-end. Le 25 et 26. Et c'est par là-bas. Voilà.
C'est sur la carte.
C'est par là-bas. Je ne sais pas trop où.
Mais est-ce que on peut peut-être retrouver le club du
Ouais. Déjà, vous pouvez retrouver nos informations sur le site du club.
Ouais.
C'est le csavh31, je pense, .fr ou quelque chose comme ça.
D'accord. Il y a des pages Facebook ou
autre. Oui. Alors on a la page Facebook du club et après sinon il y a ma page Facebook où moi je vais relayer les informations. C'est Coralie Gonzalez Goalball. Et là vous pouvez m'avoir sur tous les réseaux Facebook.
Ah, tu as une page officielle.
D'accord, ouais. D'accord. Facebook, Insta, TikTok et LinkedIn.
Alors la dernière question, ça y est, t'as fini, hein. Enfin de passer à la moulinette. C'est ta première venue au café, qu'en as-tu pensé?
Ah, le café Anko, alors je ne connaissais pas du tout. J'ai été surprise de rencontrer des gens que je connaissais, que j'avais vus tout petit déjà et qui maintenant sont bien grands. Donc ça m'a fait bizarre, j'ai pris un petit coup de vieux. Mais franchement, je suis tombée sur des gens très gentils, adorables, c'est très très convivial et j'espère bien y revenir parce que ça me paraît vachement bien ici. C'est assez cocooning, je trouve.
Ouais. En tout cas, on te remercie.
Merci à vous, c'était super.
Et ce sera avec grand plaisir qu'on aura la chance de te retrouver
Radio
à la table.
Merci.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence.
Radio Anko.